Voilà, vous êtes à l'écoute de Lille Info, un magazine consacré à l'université de Lille 1 et à tout ce qui s'y passe, ou presque. Et donc, chaque semaine, c'est un nouveau thème, une nouvelle facette de cette université que vous découvrez. Aujourd'hui, eh bien, nous allons parler d'ingénierie agroalimentaire. Ça se passe à Polytech Lille et nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Dominique Bouny. Bonjour.
Bonjour.
Donc, quand on parle d'ingénierie agroalimentaire, on sent qu'on est dans un champ, dans un domaine qui est particulièrement important et qui fait actuellement quand même pas mal l'objet de discussions et de polémiques.
Polémique, je sais pas, discussion, certainement. Ingénierie alimentaire, c'est un petit peu notre cœur de métier dans la formation que vous avez citée, donc Polytech Lille, qui est une école d'ingénieurs de spécialité, et où on enseigne, où on forme les étudiants à faire de l'ingénierie, donc de la conception industrielle et la mise en œuvre de projets industriels. Nous, à Polytech, on est structuré en différents départements, dont un département d'ingénierie alimentaire. Et dans ce département, moi je travaille plus particulièrement sur la mobilisation, l'utilisation des outils que l'on enseigne, sur des problématiques de réponse humanitaire, donc d'aide alimentaire, plus particulièrement d'aide alimentaire d'urgence.
Alors, quand on parle de polémiques, elles sont de plusieurs natures. Par exemple, si on parle de la qualité des produits, même dans le cadre de l'aide humanitaire, quelle qualité on garantit et bien sûr aussi quelle quantité on peut mobiliser pour faire face aux grands défis, aux grands problèmes actuels.
Alors, la qualité, c'est un problème central en alimentaire en général, et puis dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement, donc en aide alimentaire d'urgence, plus qu'un problème de quantité. J'ai une petite anecdote hein, que je cite souvent. Il y a plusieurs années, j'avais contacté un haut responsable du Programme alimentaire mondial, donc qui est l'agence des Nations Unies qui s'occupe de la distribution alimentaire dans les situations d'urgence. Et c'était à propos du conflit au Rwanda et de l'exode massif de plusieurs millions de personnes qui avaient été déplacées en ex-Zaïre. Et je lui avais posé les problèmes de qualité hein, des produits alimentaires qui étaient distribués à des gens qui étaient totalement démunis et qui avaient besoin de s'appuyer intégralement sur l'aide internationale. Et lui, à l'époque, m'avait répondu, bah, nous, on fait 99% de qualité. Et en fait, il y avait une confusion sur les termes. Lui répondait bien par une réponse sur les quantités de produits qui étaient distribués et pas sur la qualité. Et aujourd'hui, il y a vraiment un débat réel hein, en aide humanitaire, pas tant sur les quantités qui sont distribuées, qu'on arrive relativement bien à maîtriser, mais sur l'adéquation des produits qui sont distribués aux besoins des populations.
Voilà, alors il y a effectivement cet aspect adéquation, c'est-à-dire que ce qu'on livre, entre guillemets, correspond à des réels besoins et pas forcément à des besoins de déstockage des pays qui ont les moyens.
Oui, l'aide alimentaire a souvent été utilisée à des fins de déstockage hein, pendant très longtemps. C'était une façon de réguler des surplus. Et puis pour différentes raisons, en partie parce que notamment en Europe, on a limité les surplus, donc on a eu moins accès à ces volants. De produits disponibles pour les déverser au titre de l'aide humanitaire. Aujourd'hui, je pense qu'on commence à changer d'attitude parce qu'on connaît les méfaits de ce type d'approche hein, qui ont été largement dénoncés par les organisations humanitaires. Et aujourd'hui, on essaye de rentrer dans des stratégies qui soient plus d'aide au sens propre, mais d'assistance. Et bon, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler par la suite. Les agences des Nations Unies, aujourd'hui, essayent de plus en plus hein, de mettre à disposition des produits, par exemple, qui pourraient être en partie que l'on pourrait se procurer en partie au plus près du théâtre d'intervention. Donc ça, c'est une évolution assez importante. Jusqu'à maintenant, la culture humanitaire, traditionnellement, c'est de faire venir des produits de l'étranger massivement, hein, et ce faisant, très souvent, de déstabiliser très fortement et très durablement les économies locales, parce que on amène des produits souvent gratuitement qui viennent en concurrence de produits qui, dans certains cas, existent localement, et donc ça déstabilise totalement les marchés. Ça modifie aussi souvent très durablement les habitudes alimentaires. Hein. On introduit des produits qui ne sont pas forcément des produits qu'on trouve traditionnellement sur place. Et donc on peut, de ce fait, modifier assez durablement les habitudes alimentaires des gens. Donc ça a été dénoncé pendant des années. Et je pense qu'on commence, les donateurs commencent à en prendre conscience et essayent de mettre en place d'autres systèmes d'assistance, notamment ce programme dont je parlais, qui a été mis en place par l'Agence des Nations Unies qui s'occupe de la distribution alimentaire, qui s'appelle le programme P4P, pour Purchase for Progress. C'est un programme où on essaye au maximum d'acheter des produits localement, hein, et ce faisant, d'essayer d'utiliser les épisodes humanitaires, non pas pour déstabiliser encore plus ces pays, mais peut-être pour faire du transfert de technologies et du transfert de compétences.
Alors, c'est vrai que pendant un certain temps, on voit bien une certaine forme d'hégémonie de certains pays qui se servent de l'humanitaire comme un petit peu une capacité politique à faire reconnaître sa puissance, on va dire. Peut-être aussi à amener des technologies qui sont aussi des technologies dont on dépend, par exemple certaines grades brevetées qui sont données et puis qu'après qui entrent en concurrence, comme vous le disiez, avec des économies locales et productions. Il y a des associations aussi qui sont relativement différentes, indépendantes, et je pense à Élevage sans frontières ou d'autres qui ont d'autres façons de procéder, où ils installent en fait une forme d'économie, ils aident plutôt au développement et à la perpétuation de l'aide.
Oui, ça jusqu'à maintenant, c'est vrai que ça a été surtout porté par des organisations non gouvernementales qui souvent étaient de petite taille. Donc le problème, c'est qu'elle n'était pas un levier important dans la résolution de ce genre de problème. Ceci dit, elles ont servi de caisse de résonance, hein, et elles ont au moins servi à sensibiliser les gens et apporter le débat sur la place publique et à remettre en cause certaines habitudes qui étaient ancrées chez les donateurs. Et je pense que ça a servi notamment à faire évoluer les comportements des plus grosses organisations, dont les agences des Nations Unies, hein, qui aujourd'hui essayent réellement d'être au plus près des populations auprès de qui elles interviennent et le plus respectueuse de ces possibles. Alors on n'y est pas le plus respectueuse possible de ces populations. Donc on n'y est pas encore entièrement, mais des programmes, nous, sur lesquels on essaye d'intervenir, c'est des programmes qui s'inscrivent dans cette dynamique.
Effectivement, les besoins des populations peuvent évoluer et puis aussi être dans une certaine forme d'actualité, une catastrophe, une famine, un moment de sécheresse. En fait, les causes sont multiples de ces besoins alimentaires. Comment on définit en fonction de tel type de problématique, des besoins adaptés, peut-être même dans les, entre guillemets, rations ou les quantités de produits en qualité et en quantité bien adaptées aux besoins réels.
Ça, c'est assez compliqué à répondre, hein. Je pense que ça intervient à différents niveaux. Il y a des réponses un peu au niveau, on va dire, conceptuel, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui ont beaucoup travaillé sur les notions d'insécurité alimentaire, hein, c'est-à-dire de non-sécurité alimentaire, des situations dans lesquelles les populations peuvent être amenées à ne pas disposer des produits alimentaires dont elles ont besoin pour vivre de façon raisonnable au quotidien. Donc, dans ce sens, il y a quand même une grosse réflexion qui a été menée souvent par des collaborations internationales pour essayer de comprendre les mécanismes de mise en insécurité alimentaire. Et comme vous le disiez, ces mécanismes sont multiples, hein, ils sont multidimensionnels, ils sont complexes, et c'est intéressant de comprendre un peu les causalités. Donc sur ça, il y a des choses qui existent aujourd'hui, bon, qui sont, disons, à un niveau assez conceptuel, mais qui permettent d'orienter les actions. Alors après, au niveau des actions plus concrètes, ça commence simplement, en général, par des enquêtes, hein, sur le terrain pour mieux comprendre les mécanismes qui sont en place, les habitudes alimentaires des gens, les disponibilités. Donc là encore, il y a des outils aujourd'hui qui ont tendance à se généraliser, hein, et en partie, notamment, sous l'égide d'organisations internationales comme certaines agences des Nations Unies, en particulier la FAO, qui aident, par exemple, à mettre en place des systèmes d'alerte plus ou moins rapides pour prévenir des situations à risque en mobilisant des outils satellitaires, des bases de données assez précises, hein, qui permettent d'avoir des relevés assez précis d'une situation donnée et d'essayer d'extrapoler sur le court terme pour prévenir des situations qui peuvent se dégrader et amener à de l'insécurité alimentaire. Donc ça, c'est, il y a des outils, il y a de l'information, il y a du partage d'informations. Donc ça, c'est un gros travail, mais qui fonctionne justement s'il y a une approche un petit peu collaborative de la communauté humanitaire au niveau de l'échange des informations.
Alors, les problèmes sont liés parfois à la nature, aux caprices de la nature, parfois aussi à la politique carrément d'une population qui en affame une autre sur son territoire. Donc les problèmes sont là à régler sous deux dimensions, l'aspect aide technique et aussi les relations qu'on peut établir entre les dirigeants de ce monde, entre guillemets.
Oui, il y a une dimension politique, hein, qui est la plus compliquée, et parce qu'elle est la plus compliquée, elle est la plus difficilement traitée. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'en aide d'urgence, ce qui est relativement facile, hein, entre guillemets, parce que l'exemple d'Haïti prouve que c'est quand même pas si facile que ça, ce qui est relativement facile à prendre en charge, c'est des catastrophes naturelles, des tremblements de terre, des tsunamis, des typhons, parce qu'on pourrait penser qu'au départ, l'enchaînement est purement technique, même si, et encore une fois, l'exemple d'Haïti au niveau de la réponse montre que ce n'est pas uniquement vrai, qu'il y a une dimension politique. Quand on rentre sur des situations où l'insécurité vient de problèmes générés par les hommes humains, eux-mêmes, hein, des situations de conflit, là c'est compliqué parce que on rentre dans des cas de figure où il y a des possibilités ou peut-être une obligation d'ingérence politique.
Alors, c'est vrai qu'il y a des cas un peu dramatiques et souvent méconnus. Je pense par exemple au Vietnam où certaines populations se retrouvent en haut des montagnes et coupées de bases alimentaires, on va dire, et finissent par avoir la lèpre et disparaître.
Oui, bon, ça, c'est des situations qui sont connues, hein, et c'est pour ça, je pense qu'il y a... Bon, moi, je revendique d'être purement un technicien, un technologue, mais en même temps, je suis convaincu que la technique ou les technologies ne sont jamais neutres et qu'on, pour les utiliser, nous, on doit s'appuyer sur d'autres données socio-économiques. Alors, je ne suis pas un expert de ces données, mais je suis convaincu qu'on a besoin, avant de mettre en place des choses plus ou moins lourdes, on a besoin d'avoir accès à des informations très fines, hein, et, bon, et qui doivent être collectées par d'autres personnes, hein, dont c'est plus la spécialité. L'exemple que vous donniez, bon, c'est typiquement des situations où techniquement les solutions existent. La difficulté vient que se surajoute une couche politique, hein, sur laquelle ça a d'autres acteurs d'intervenir.
Alors, est-ce que d'un point de vue général, si on fait l'état des lieux, on a les moyens de répondre à tous les problèmes du monde? Et si on ne les a pas, est-ce qu'on oriente justement notre aide vers certaines populations plutôt que d'autres, et sur quels critères?
Techniquement, oui, je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens de pouvoir répondre plus ou moins bien, mais de pouvoir répondre à quasiment toutes les situations de crise. Et même aujourd'hui, essayer en partie de les prévenir. La difficulté, c'est dans la volonté de mobiliser ses moyens, en termes de ressources financières, de ressources humaines. Donc ça, c'est pour des techniciens ou technologues comme nous, c'est très frustrant de voir que les solutions existent, mais que la volonté de les utiliser ou les moyens pour les mettre en œuvre, par contre, ne sont pas donnés. Ça, c'est très frustrant.
Alors, quand vous dites que les moyens existent, est-ce que ça veut dire aussi que la Terre a la possibilité de nourrir très correctement toutes les personnes qui y vivent ?
Aujourd'hui, oui. Je pense aujourd'hui, oui. Bon, je ne suis pas un spécialiste de cette problématique, mais tout ce que j'ai lu montre que si on utilise les moyens techniques qui sont à notre disposition aujourd'hui, et si on a la volonté de le faire, on a largement les moyens de nourrir la population mondiale. Mais ça a un coût, hein. Il faut qu'il y ait derrière une volonté politique. Bon, je ne vais pas dire de bêtises, mais globalement, par rapport à la mobilisation internationale qui s'est très rapidement mise en marche au moment de la dernière crise financière, ça serait une toute petite goutte, hein, en termes de ressources. Simplement, au niveau des politiques dans le monde, force est de constater que cette volonté, pour l'instant, n'existe pas.
Alors, est-ce que le fait de l'internationalisation, on va dire la mondialisation, est-ce que cette mondialisation règle les problèmes ou crée des problèmes ?
Elle en règle dans certains côtés, parce qu'elle facilite quand même des échanges. Elle pourrait permettre à faire tomber des barrières culturelles qui parfois sont peuvent être des freins, qui peuvent apporter des renfermements de certaines populations sur elles-mêmes. Donc, dans ce sens, oui, la mondialisation est au-delà, l'échange des savoirs pourrait, et dans certains cas, est bénéfique. Tout dépend de la façon dont elle va être utilisée. Si elle est utilisée pour imposer un modèle de développement unique à des gens qui en ont pas forcément besoin ou qui en sont pas demandeurs, bon, c'est évident que l'effet sera totalement inverse et catastrophique. Je pense que c'est ce qui s'est globalement passé dans les dernières décennies, et je pense que toute l'aide occidentale était très orientée et peu à l'écoute des populations auprès de qui elle était destinée, et en tout cas peu respectueuse.
Donc si on fait un petit peu l'état des lieux, on a une aide internationale qui est structurée, on a une aide de certains pays, qu'on disait autrefois la collaboration ou les échanges internationaux, on a les organisations humanitaires aussi. Donc tout ça, en principe, ça devrait travailler un peu ensemble, non ?
Ça devrait. Et encore une fois, c'est une grande frustration quand on voit que ça ne fonctionne pas ou pas aussi bien qu'on le voudrait. Et alors, bon, nous, on peut avoir notre responsabilité technique. Hein, il peut y avoir des accros techniques en termes d'acheminement alimentaire, par exemple, une mauvaise prévision ou la fourniture de produits dont la qualité est insatisfaisante. Dans la majeure partie des cas, les responsabilités, elles sont en amont, hein, encore une fois, elles sont dans la volonté ou le manque de volonté de se donner les moyens. Par exemple, cette problématique qu'on avait initiée au tout début de qualité alimentaire, c'est pour nous, enfin pour moi, c'est très frustrant de voir le fossé qu'il y a entre les approches qui sont courantes hein, dans nos pays, hein, l'exigence de qualité sur lesquelles tout le monde se sent concerné, consommateur, mais aussi industriel responsables divers, hein, politiques ou des différentes administrations. Et puis l'approche qui est totalement différente dans le cadre de l'aide humanitaire, où là, on n'a pas les mêmes exigences, on n'a pas les mêmes mécanismes, on n'a pas les mêmes systèmes de contrôle. Et ça, c'est très pernicieux et on perpétue, je pense, des systèmes à deux vitesses qui ne peuvent que créer de la frustration et quelque part combattre les situations qu'elles étaient censées aider.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas dans le terme qualité alimentaire parfois des incompréhensions, des quiproquos? Est-ce que la qualité est réellement là ou on la prétend?
Bah, la qualité, je pense qu'il y a une mauvaise compréhension ou une confusion peut-être au niveau du grand public. Au niveau des professionnels qui l'utilisent, je pense qu'il n'y a pas de confusion. Hein. Nous, quand on parle de qualité, on parle de conformité à des spécifications ou des exigences préétablies, c'est-à-dire la capacité de fournir un aliment qui correspond à ce que les gens en veulent et qui correspond à ce que nous, on a dit qu'on allait leur donner. Très souvent, derrière ce terme de qualité, la confusion vient que au niveau du grand public, elle est souvent traduite comme surqualité, c'est-à-dire, on pourrait dire, une qualité presque gastronomique. Hein, et à ce niveau, très souvent, on entend, c'est presque un terme qui est provoquant en aide alimentaire, de parler de qualité. Hein. Les gens ont le sentiment très souvent de dire, mais bon... à quoi bon donner des aliments de qualité? Le plus important, c'est d'acheminer les aliments dont les gens ont besoin. Et c'est là où il y a une confusion sur le terme. Nous, quand on parle de qualité, c'est bien connaître les besoins nutritionnels ou culturels aussi. Hein. Il y a un aliment, on ne le mange pas uniquement parce que nutritionnellement, on en a besoin. Aujourd'hui, dans la majeure partie des cas, les gens ne savent pas trop ce dont ils ont besoin, mais on le mange pour sa dimension culturelle, parce qu'on est habitué à le manger, parce qu'on a envie de le partager avec d'autres. Donc la qualité, c'est connaître déjà ses attentes, c'est aussi connaître bien sûr les besoins nutritionnels, les besoins de hygiéniques, hein, ou les exigences hygiéniques des consommateurs, et puis tout mettre en œuvre pour fournir des produits qui vont correspondre à ces exigences, à ces attentes. Donc là, on est vraiment plus à un niveau d'organisation, c'est-à-dire de mettre en place un système d'organisation qui va permettre de fournir le produit aux bonnes spécifications.
Alors, je pense que ces spécifications, elles sont relativement connues. Elles font aussi l'objet de barrières, de protectionnisme. Je ne sais pas, on n'a peut-être pas le temps de développer ça. Quand on voit différents scandales, par exemple la dioxine ou des choses comme ça qui sont répandues au travers le monde, est-ce qu'entre ce qu'on sait qu'on doit faire et ce qui est fait pour dire de rentabiliser économiquement certaines installations, comment se fait la vigilance et quel est votre apport possible dans cette observation? Est-ce qu'il existe des observatoires et justement qui pourraient enrayer ou limiter les dégâts?
La vigilance, elle se fait déjà par un travail scientifique, hein, d'identification des précises, le plus précises possible des sources de danger et de leurs causes, de leur impact. Donc ça, il y a un gros travail. Alors les industriels en alimentaire sont souvent décriés, mais la majeure partie, par obligation, hein, réglementaire, ont fait ce travail de connaître les dangers qui peuvent être liés à la fabrication, à la distribution de leurs produits, et puis d'agir sur les causes. Donc la vigilance, elle s'opère de façon préventive, hein, par un travail de veille et qui a vraiment une dimension scientifique, c'est-à-dire collecter des informations le plus précisément possible, les analyser et puis après mettre en place des plans d'action. Donc le point un petit peu sensible, c'est peut-être au niveau de la traduction de toute cette démarche en plan d'action.
Voilà, bien, monsieur Dominique Bonny, on a abordé ce sujet. On n'a pas assez d'une demi-heure pour aller jusqu'au bout des choses, mais j'espère vous retrouver pour compléter l'information de nos éditeurs. Merci donc, et donc bonne continuation à Polytech Lille.
Merci.